nzamba
nzambira samirana Nous sommes lundi 3 mai 2021. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Agathe Kakaawe. C'est le moment du journal en français, donc voici d'abord les principales articulations. Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au Burundi, l'Union burundaise des journalistes, UBJ, déplore un harcèlement quotidien des journalistes. Deux personnes ont été tuées hier dimanche en commune et province Muyinga. Les criminels ne sont pas encore connus. Et puis la ministre du Commerce, qui vient d'être démise de ses fonctions, a été victime de la politique de fusion entre les entreprises publiques Sobugea et Air Burundi, selon les révélations de l'Olucom. Les détails, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres. À la présentation, vous êtes avec Valérie Mucho. Madame, monsieur, bonsoir ou bonjour et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée arrive au moment où la presse burundaise est en manque de liberté, comme le constate Judith Basutama, la secrétaire générale de l'Union burundaise des journalistes, UBJ en sigle. Selon elle, on ne peut pas parler de la liberté de la presse dans un pays où l'on observe encore des condamnations à perpétuité envers les journalistes. Les journalistes sont quotidiennement harcelés et menacés dans l'exercice de leur métier, déplore Judith Basutama.
Parler de liberté de la presse au Burundi serait un leurre. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation des organes de presse. C'est vrai aussi que dans le classement Reporters sans frontières, le Burundi a gagné 13 places, passant de la 160e à la 147e. Tout cela est souvent brandi par le pouvoir comme des indicateurs de la liberté de la presse. Mais en réalité, on ne peut pas parler de liberté de la presse lorsque plus d'une centaine de journalistes se retrouvent encore en exil. Quand des journalistes ont été condamnés à perpétuité alors qu'ils étaient dans l'exercice de leur métier. On ne peut pas parler de liberté de la presse lorsque les professionnels des médias n'ont pas accès aux sources d'information. Les détenteurs de l'information semblent encore croire que donner de l'information est un privilège et non un droit garanti par la loi. Il faut dire aussi que à l'Union burundaise des journalistes, on recense régulièrement des cas de harcèlement, d'intimidation, des menaces dont les journalistes subissent au quotidien. Et depuis 2015, la destruction des médias indépendants a créé un précédent au sein des médias. Dans beaucoup de rédactions, les journalistes se sont imposés l'autocensure par peur des désagréments. Autocensure dans le choix des sujets à traiter, mais aussi dans le traitement de ces sujets. Et dans ces conditions, c'est le consommateur de l'information qui est lésé, car il sera déconnecté des réalités du pays. Or, comme le thème de cette journée de la liberté de la presse l'indique, l'information devrait être un bien public auquel le consommateur accède avec facilité, comme à tout autre bien public.
La secrétaire générale de l'UBJ ajoute que dans un pays où il y a la liberté de la presse, les journalistes ont le plein droit de travailler sans crainte en respectant la déontologie du métier. Écoutez encore une fois Judith Basutama.
Dans un pays qui garantit la liberté de la presse, les professionnels des médias auront la latitude de traiter tous les sujets dans le respect des normes professionnelles, d'éthique et de déontologie. Les médias sont libérés de toutes les entraves qui les empêche de collecter, de traiter et de diffuser l'information, des entraves telles que nous les avons relevées actuellement au Burundi. Évidemment, dans un pays respectueux des libertés, un journaliste n'est pas traîné devant la justice pour une information diffusée ou une erreur commise dans l'exercice de la profession. En d'autres termes, les délits de presse sont dépénalisés. Les professionnels des médias auront aussi la latitude de critiquer sans nuire et mettre les pouvoirs publics devant leurs responsabilités en crainte de manquement. Enfin, dans les pays respectueux des libertés, l'information est un bien public et le consommateur a le droit d'accéder à toutes les informations qui touchent la vie de son pays.
Parlons sécurité à présent. Deux jeunes gens, dont une fille et un garçon, sont morts hier dimanche en commune et province Muyinga, selon des informations recueillies sur place par la radio Nzamba. La première personne est un jeune du nom de Salim Nguriingoma. 21 ans, qui s'est noyé dans une piscine où il faisait la natation. La seconde, c'est une fille nommée Domitile Nijimbere, 16 ans, native de la colline Kavumu, en zone Rugari. Son corps a été découvert dans un cours d'eau appelé Chogo, séparant les collines de Murama et Murire de la même zone. Notre source indique que les présumés auteurs de ce meurtre ne sont pas encore connus. Un militaire démobilisé connu sous le nom de Calixte Kalisarié est en garde à vue depuis plus d'un mois au commissariat de police à Mnaro, c'est au centre du pays. Calixte aurait été torturé durant sa détention, une violation de la loi déplorée par l'activiste des droits humains Dieudonné Bachirai Chizé. Il estime que les tortionnaires devraient plutôt être traduits devant la justice. C'est un reportage signé Josephine Jones Munzimana.
Le détenu démobilisé ex-FAB en garde à vue pendant plus d'un mois a été horriblement torturé, selon les révélations de certains des policiers du commissariat de Mwaro, qui font également savoir que les tortionnaires sont des agents du service national des renseignements.
Brûlé au niveau des fesses, il n'est même plus à mesure de s'asseoir.
Son interpellation au lendemain de sa libération de la prison est un signe qui ne trompe pas d'une poursuite judiciaire sur de simples suspicions. Déclaration de Maître Dieudonné Bachirai Chizé, qui estime que sa détention en garde à vue pendant une si longue période témoigne également du manque des éléments à charge qu'il devrait présenter au parquet.
Il est très difficilement compréhensible qu'une personne qui vient d'être libérée de prison soit poursuivie le lendemain pour des actes répréhensibles qui se seraient passés la nuit de sa libération. C'est absolument difficile à comprendre qu'une personne quitte la prison aujourd'hui et que durant la même nuit de sa libération, il se lance dans des actes criminels. Si la police avait des éléments en charge, elle n'aurait pas mis aussi longtemps à garder cette personne qui aurait été torturée. La loi accorde à la police un délai de 7 jours pour la garde à vue, qui peut être prolongée moyennant l'accord du parquet une seule fois, donc de 7 jours encore. Si donc ils avaient des preuves, ils auraient envoyé le suspect au parquet pour que la procédure puisse suivre son cours normal.
Maître Dieudonné Bachirai Chizé indique en outre que les actes de torture dont le détenu Calixte Kalisarié aurait été victime sont réprimés par la loi burundaise et les textes et lois internationaux auxquels le Burundi a ratifié.
La constitution burundaise ou les instruments internationaux que le Burundi a ratifiés prohibent l'usage de la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants. C'est très dommage que le gouvernement ait chanté à tout vent que la situation est meilleure dans le meilleur des mondes et que dans l'entretemps, de simples citoyens continuent à être malmenés, à être torturés et à vivre dans la terreur et la stupeur dans leur propre pays. Il est grand temps que le régime burundais se ressaisisse et que les auteurs de ce genre d'infractions soient traînés en justice pour qu'ils soient châtiés conformément à la loi.
La rédaction de la radio Inzamba Agateka Kawe n'a pas encore eu la version du commissaire provincial de police à Mwaro, ni celle du procureur de la République dans cette province pour éclairer l'opinion sur la détention de ce citoyen Calixte Kalisarié.
2500 francs burundais, c'est la somme d'argent que doit payer tout propriétaire de parcelle au quartier 2B, situé dans la zone Buterere, c'est dans la mairie de Bujumbura. Selon le chef de quartier, Elivia Mungu, cette contribution de 2500 francs servira à la réhabilitation d'une route qui n'est plus praticable. Les habitants de cette localité craignent pour la bonne gestion de cet argent. Le point avec Delicia Kamikazi.
C'était le 24 mars de cette année, les habitants du quartier 2B de la zone Buterere ont été informés de la décision par le chef de quartier Elivia Mungu. Ce sont les habitants de ce quartier qui vont contribuer à la réhabilitation des routes inaccessibles, avait insisté Elivia Mungu. La première route à réhabiliter est celle qui part de la place connue sous le nom de Maison Verte et qui mène vers le quartier 2B. Les propriétaires des parcelles de cette localité doivent contribuer chacun une somme de 2500 francs burundais pour les démunis, tandis que ceux qui ont des moyens doivent payer une somme de 5000 francs burundais. La collecte de cette contribution sont faits par l'administration à la base et sous la supervision du chef de quartier. Les informations provenant de ceux qui ont déjà contribué signalent qu'aucune preuve justifiant le paiement n'est disponible, à part l'enregistrement d'un nom dans un cahier. Ceux qui s'abstiendront ne bénéficieront plus de services administratifs au niveau de la zone, avait souligné le chef de quartier Elisa Mung. Les habitants du quartier de Bézon-Buterele dénoncent ce qu'ils appellent abus dans cette contribution et demandent aux personnes compétentes d'arrêter cette décision qui est de la pure escroquerie.
On nous a dit que la décision prise concernant la contribution destinée à réhabiliter cette route vient des plus hautes autorités du pays. Nous leur demandons de revoir cette décision car c'est de l'escroquerie qui se cache derrière. Qu'il y ait des investigations pour que cette décision soit arrêtée.
La rédaction de la radio Inzamb a essayé de joindre par téléphone le chef de quartier de B, Elie Jamong, sans succès. Quant au chef de zone Boutelé, Serge Atakimana, il n'a pas décroché son téléphone. Il y a 4 mois, dans son même quartier de B de la zone Boutelé, les administratifs à la base ont exigé une somme de 400 000 aux vendeurs et aux acheteurs des parcelles.
Inzamba. Un groupe de plus de 10 miliciens Imbonerakure, la jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a fait incursion en République démocratique du Congo dans la nuit de ce samedi. Des informations dignes de foi indiquent que chaque milicien Imbonerakure a reçu une somme de 300 000 francs burundais avant d'entrer sur le territoire congolais. Les détails avec Diane Nkurunziza.
Ce groupe de jeunes Imbonerakure a été rassemblé mardi dernier dans la commune Musigati de la province Bubanza. Notre source dans la commune Musigati indique que ces Imbonerakure ont été regroupés dans le but d'aller en République démocratique du Congo pour combattre les rebelles burundais vivant sur son sol. Ces informations affirment également que chaque jeune Imbonerakure de ce groupe devrait percevoir une somme de 300 000 francs burundais. Nos sources précisent qu'une avance de 100 000 francs a été donnée sur place, tandis qu'une autre somme de 200 000 francs a été placée sur leur compte bancaire. Ces informations dignes de foi de la radio Inzamba en commune Musigati révèlent l'identité de certains de ces jeunes miliciens. On citera notamment un jeune du nom d'Onzi Sabira, déserteur de l'armée burundaise, Lambert, un passionné de la police, Edouard Sabkuniza, déserteur aussi de l'armée, Samuel, déserteur de l'armée également, Nzosaba, déserteur de l'armée, un certain Kaburungu, ancien combattant du FNL, ou encore 2 autres jeunes Imbonerakure, Merci Sedek et Eric. Tous ont fait l'incursion au Congo dans la nuit de ce samedi. Rappelons que ce n'est pas la première fois que les jeunes Imbonerakure sont signalés sur le sol congolais. Ils s'y sont rendus à plusieurs reprises, notamment à Kilibaondès, pour subir des entraînements paramilitaires. La radio Inzamba a tenté de joindre le porte-parole du parti CNDD-FDD pour plus d'éclaircissements sur ce dossier, mais sans succès.
L'armée burundaise maintient toujours le commandant du 7e bataillon dans la mission de maintien de la paix en Centrafrique, la MINUSCA. Le lieutenant-colonel Idéphonse Baragnikwa est pourtant épinglé par bon nombre de rapports des défenseurs des droits humains pour avoir commis des atrocités en 2015. Il est accusé entre autres d'avoir notamment ordonné de tirer sur des civils lors des manifestations contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Cet officier supérieur est également dénoncé dans d'autres cas d'enlèvement, de viol des femmes et de collaboration avec les génocidaires rwandais des FDLR. Idéphonse Baragnikwa vient néanmoins en tête de liste des 40 officiers de l'armée burundaise qui ont commencé ce lundi une formation pré-redéploiement afin d'intégrer la MINUSCA. Il dirige le 7e bataillon attendu pour faire la relève au mois de septembre prochain. Le point avec Nadine Mourakeye.
38 hommes et 2 femmes sont les officiers burundais qui ont répondu à l'appel ce lundi lors de l'ouverture des séances de formation pré-redéploiement pour une mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique. Des modules sur les principes des Nations Unies et surtout sur le respect des droits humains sont à la base de ce que ces officiers burundais du 7e bataillon sont appelés à apprendre avant de prendre la relève de leurs collègues prévus au mois de septembre prochain. Pourtant, un visage hante toujours les défenseurs des droits de l'homme parmi les bénéficiaires de la formation. Il s'agit du commandant de ce bataillon, le lieutenant-colonel Idéphonse Baragnikwa. ce haut gradé de l'armée est connu dans les milieux de la société civile comme un des officiers qui ont régulièrement abusé de leur pouvoir en réprimant de manière disproportionnée les manifestants contre le troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza. Ce comportement de certains hauts gradés de l'armée burundaise a souvent été pris en compte par les Nations Unies quand il s'agissait de former des casques bleus parmi le contingent burundais. Certains noms ont même été rayés de la liste des officiers à déployer dans des missions de maintien de la paix en Centrafrique et en Somalie.
Et pour boucler ce journal, le détournement des fonds issus de la vente de l'avion Beechcraft de l'ancienne société Air Burundi est l'une des raisons de la destitution de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Immaculée Ndabaneze. C'est la révélation de l'enquête menée par l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, le LUCOM, autour du dossier de la fusion entre les entreprises publiques Air Burundi et Sobugea. Je vous propose d'écouter les propos de Gabriel Roussieri, il est le président de l'OLUCOM.
Sa destitution serait liée à la vente illicite de l'épave qui s'appelle Beechcraft 1900, un avion que Air Burundi avait, mais un avion qui n'avait jamais était utilisé depuis 2009. Mais malheureusement, le Burundi, quand vous regardez au niveau du budget général de l'État, le Burundi prévoyait une rubrique pour l'entretien de cet avion. En décembre de l'année 2020, il y a une société sud-africaine qui est venue pour négocier cet avion. Il y aurait eu un accord comme quoi dans cette société donc devait donner une avance d'autour de 50 000 $, mais ce montant, au lieu de transiter ou d'aller sur les comptes du gouvernement, entre autres les comptes de Air Burundi ou Trésor public, ce montant aurait été utilisé en dehors des normes de gestion des finances publiques. Un autre dossier, c'est le dossier qui est lié à l'équipement de la nouvelle société Burundi Airlines qui est provenue de la fusion de Air Burundi et de la Sobugea.
L'ancienne ministre du Commerce aurait été sommée de rembourser le montant détourné avant d'être libérée ce dimanche par le service de renseignement qui l'avait coffré depuis samedi dernier, le jour même de son limogeage. Et l'OLUCOM dénonce un laisser-aller dans la lutte contre la corruption, un laisser-aller qui a abouti à la suppression des institutions chargées de lutter contre la corruption au Burundi. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre fidélité à la radio Inzamba Agathe Kakaawe. Au revoir et à la prochaine.